Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélav et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Rav Eli Lemel, on arrive au dernier livre, à la dernière paracha du livre de Bereshit, du livre de la Genèse. Et donc on va, comme on le fait chaque semaine avec vous, survoler le passage que nous lisons dans nos communautés. Donc on arrive à Vayechi. Mais Vayechi, c'est encore une fois, j'ai envie de dire, un moment où on voit l'un de nos patriarches bénir. Et alors là, on en a déjà vu beaucoup. Mais là, il y a un nouveau truc. On bénit le... Je parle avec le sourire, mais évidemment avec beaucoup de tendresse pour nos textes. Hein, c'est pas... C'est de la tendresse, mon sourire. Et voilà, donc, cette bénédiction, Ephraim et Ménaché, et on bénit le deuxième avant le premier, mais en plus de ça, on croise dans les mains. Quand je dis on, c'est Yaakov. Qu'est-ce que veut nous dire la Torah avec le mail avec cette histoire qu'on peut peut-être qualifier de rocambolesque. Je ne sais pas si vous accepterez le mot, mais que nous enseigne cette histoire.
Alors c'est vrai que on est dans la paracha donc de Vayechi. Dans cette paracha là, on va voir des brachot, on va voir des bénédictions, on va voir et à la fois tout à la fin de la paracha Yaakov qui bénit ses fils. Et quand vous regardez le texte, on va réaliser que c'est pas toujours des bénédictions. C'est très très curieux. Et en même temps, eh bien, au tout début de la paracha, ça commence par des bénédictions qui sont données à ses petits-fils, c'est-à-dire aux enfants de Yosef. Alors, le texte nous relate que Yosef est parti rendre visite à son père qui est malade. Il arrive avec ses deux enfants, Ephraïm et Menaché, et il se retrouve devant le père, et puis... D'abord, le père l'interroge, mais qui sont-ils? Et puis, il lui explique qu'en vérité, ils sont le fruit de son union avec Osnat, la fille de Potiphéra. Et puis, il les rapproche et il va les bénir. Alors, évidemment, il y a cet épisode dans lequel il croise ses mains. Il met la main droite sur la tête du cadet, la main gauche sur la tête de l'aîné. Yosef lui dit, papa, je crois que tu... Pas, il lui dit, je crois que tu te trompes. Il lui dit, non, l'aîné, c'est celui-là. Et son père lui dit, non, je sais, je suis au courant, mais il n'y a pas de problème, je sais pourquoi je le fais. Et alors, la chose qui est très, très surprenante ici, c'est que le texte nous dit, Yaakov dit, Jacob, notre ancêtre, dit, eh bien, c'est comme cela qu'on bénira dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire, on va bénir nos enfants sur ce principe. Quel principe? Eh bien, Yosimcha Elokim, que Dieu te mette comme Ephraïm et Menaché. Alors, c'est très curieux de comprendre, mais ça veut dire quoi? On souhaite à nos enfants d'être comme Ephraïm et Menaché. C'est comme ça qu'on les bénit. On les bénit tous les vendredis soirs de cette manière-là. Ephraïm et Menaché sont les fils de Yosef, mais en même temps, on aurait pu imaginer que Dieu te mette comme Abraham, Isaac, Jacob, comme... Je ne sais pas, comme Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, enfin, on a les tribus quand même, on a déjà tous les enfants de Yaakov, non, comme ces deux enfants-là, Ephraïm et Menaché. Alors j'ai envie de partager avec vous deux lectures différentes de ce texte. La première lecture, c'est au fond, qui sont vraiment Ephraïm et Menaché? Ephraïm et Menaché sont ce que j'appellerais les deux premiers juifs de l'exil. Ça veut dire quoi que Ephraïm et Menaché ont vécu dans un environnement, je ne dirais peut-être pas hostile, mais en tout cas dans lequel il n'y avait que leur père, leur mère, eux, qui étaient dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une vie juive. Alors, ça veut dire quoi à cette époque? C'est peut-être légèrement différent, mais ce qui est sûr, c'est que Ephraïm et Menaché ont vécu dans un environnement totalement galoutique, totalement d'exil. Ils n'ont jamais grandi dans l'univers de Yaakov, avec leurs oncles. Ils sont nés en Égypte, ils ont grandi en Égypte. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est quoi ? C'est que quand Yaakov voit justement ses petits-fils, il va leur dire Ephraïm ou Menaché, Kir Uven ve Shimon Yuli. Ephraïm ou Menaché, vous allez être pour moi comme Rouven et Shimon. C'est-à-dire, je vous donne le même statut que vos oncles. Il ne s'agit pas ici de la parole d'un grand-père, mes petits-enfants, vous êtes comme mes enfants. Évidemment que non. Quand la Torah nous relate une chose pareille, elle est en train de nous dire quelque chose de très fort. Yaakov a vu que ses petits-fils, Ephraïm et Menaché, alors qu'ils ont grandi en Égypte, alors qu'ils n'ont jamais été dans des configurations avec d'autres personnes qui fonctionnaient comme eux, non seulement ont réussi à ce qu'on appellerait aujourd'hui préserver leur identité, mais plus que cela, Ephraïm et Menaché ont réussi à se hisser au niveau spirituel de la génération précédente. Yaakov, en leur disant qu'il ouvène le Shimon, je vois en vous la génération précédente. C'est-à-dire ceux qui nécessairement ont une grandeur particulière parce que les générations précédentes, eh bien, sont celles qui sont toujours plus proches de la révélation. Et c'est vrai que dans le peuple juif, c'est ce que l'on sait. C'est que pour nous, eh bien, plus on s'éloigne de la révélation du Sinaï, moins on arrive véritablement à appréhender beaucoup de choses. Et Yaakov dit voilà. Voilà par quoi on va bénir nos enfants. On va bénir nos enfants en leur souhaitant tout d'abord de ne pas prétexter l'univers dans lequel ils ont grandi pour ne pas être dans l'excellence. Ephraïm et Menaché, on aurait dit aujourd'hui, auraient pu avoir toutes les bonnes raisons pour ne pas être dans cette grandeur spirituelle, tout en restant de bons enfants. Mais que voulez-vous quand on vit dans un environnement d'exil, quand on est seul, quand on est environné d'une civilisation autre, ben, soyez déjà bien contents que nous soyons toujours fiers de notre identité, que nous mangions toujours, on dirait aujourd'hui, la dafina ou le tchoulin vendredi soir. C'est déjà super. Non. Pas du tout. Yaakov dit, ne prétextez pas les difficultés ou les environnements pour ne pas être dans l'excellence. Et cette excellence, eh bien, c'est être capable d'avoir une forme d'ambition qui est énorme. C'est l'ambition d'être comme les générations précédentes. Et c'est comme cela qu'on bénit nos enfants. Voilà déjà une première explication qui au fond nous interpelle parce que on est souvent dans des mondes dans lesquels on prétexte la difficulté pour ne pas grandir. Seconde chose, beaucoup plus rapidement, Ephraïm et Menaché sont là, voient leur grand-père et leur père qui discutent. Le grand-père met d'abord la main droite sur le cadet. Et le père Yosef dit à son propre père Yaakov, non, il ne lui dit pas de ne pas le faire, mais il lui dit, tu sais, l'aîné, ce n'est pas lui. Et Yaakov de lui dire, oui, c'est bon, je suis au courant. Mais Ephraïm et Menaché ne se taisent, ils ne disent rien. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que quand Jacob met la main sur la tête du cadet, l'aîné réagisse et dise, non mais attends, c'est moi l'aîné. Et lorsque Yosef dit au père, c'est lui l'aîné, on aurait pu imaginer que le cadet sur lequel Yaakov a posé la main droite dise à son père, non mais papa, il sait ce qu'il fait, grand-père, laisse-le. Les deux se taisent. Au fond, il révèle la relation de confiance qu'ils ont avec la génération qui est au-dessus. Ils sont capables de se taire parce qu'ils se disent, s'ils sont en train de faire cela, si Yaakov met la main droite sur le cadet, et si Yosef est en train de dire qu'il faut peut-être faire le contraire, ils savent ce qu'ils font. Et ça, c'est une bénédiction que l'on donne à nos enfants, mais au fond, quand on les bénit de cette manière, on est en train de se parler à soi-même. Comment avoir des enfants qui auront une relation de confiance avec leurs parents. Comment faire pour justement que nos enfants puissent ressentir profondément de la confiance et que dans des situations de ce type, eh bien, ils soient capables de se taire, non pas parce qu'on n'a pas le droit de parler, mais parce qu'ils se doutent que la génération d'au-dessus sait ce qu'elle fait et que les postures que l'on peut avoir, les décisions que l'on prend, prennent sûrement leurs racines dans quelque chose qui est du domaine de la réflexion et de l'intelligence. voilà, peut-être ici, donc, de lecture de cette bénédiction particulière. Et à nous d'essayer de faire en telle sorte que lorsque nous allons bénir nos enfants toutes les semaines, eh bien, de nous demander comment nous allons faire pour que cette bénédiction-là s'exprime de manière extrêmement concrète au niveau de leur existence.
Extrêmement concrète, effectivement. On va essayer de toujours savoir comment agir avec ces très beaux enseignements que vous nous donnez tous les uns et les autres chaque semaine. Ravelli Lemel, je vous remercie. Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai. Shavua Tov.
Shavua Tov.
Rav Mordechai, alors il y a des commentateurs qui se posent la question. Ils se disent, il est possible finalement que Yosef, il n'ait pas totalement pardonné à ses frères d'avoir été vendu. Et il y en a même qui disent, mais ça se trouve, il n'a pas pardonné. Donc, quel enseignement on en tire au regard de ces fameuses bénédictions? Et d'ailleurs, quel est le message de nos avot pour la grande famille du peuple juif?
Alors, on sort de Parashat Vaigash, on rentre dans Parashat Vayechi. Dans Parashat Vaigash, on a assisté aux retrouvailles entre les frères, à cette unité retrouvée. Et dans Vayechi, donc, on va parcourir les bénédictions qui sont adressées par Yaakov à ses enfants. Et à la fin, après l'enterrement de Yaakov, Yaakov décède et l'enterrement de Yaakov en Eretz Israël, on retrouve à nouveau cette rencontre entre les frères et Yosef. Mais cette fois-ci, une rencontre qui est placée sous le signe de la crainte. Que les frères ont peur. Peut-être que Yosef nous déteste. Peut-être qu'il va se venger. Peut-être qu'il va essayer de nous faire quelque chose maintenant que notre père est parti. Et ils vont aller voir Yosef et ils vont lui dire « Il est nous les Chalavadim, on était Avadim. On était tes serviteurs. On était serviteurs. » Et Yosef leur dit non. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Il leur répond la chose suivante. Vous avez pensé à mon sujet, Ra'a, pour le mal. Elohim, Dieu, Hashava, l'Etova. Lui, il a conçu toute cette histoire, mais l'Etova pour le bien. Pourquoi l'Eman, Asot, Kayom, Azé, la Chayot, Abraf, afin qu'aujourd'hui je puisse faire vivre un nombre peuple, que je puisse vous faire vivre, et faire vivre finalement toute l'humanité, puisque je suis vice-roi d'Égypte, et par que les conseils que j'ai pu donner, on a pu sauver l'Égypte de la famine. Alors, le commentaire du Or HaChaim, à Kadosh, disait quelque chose d'assez sidérant. Yosef va leur dire, est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Vous voyez bien vous-même que vous avez voulu vous débarrasser de moi, ça n'a pas marché. Est-ce que 10 personnes qui s'attaquent à une personne et qui ne réussissent pas, eh bien, ça ne montre pas que si une personne, c'est moi, je m'occupe, je m'attaque à vous, ça non plus, ça va pas marcher. C'est Dieu qui décide de tout. Et alors, le Or HaChaim, sur le verset 19, au chapitre 50, donc à la fin, il va dire la chose suivante. Il va dire, écoutez, il va expliquer comme ça. Il va dire, si de toute façon vous êtes passible de la peine de mort pour ce que vous avez fait, alors c'est Dieu qui juge. Et donc, il ne répond pas directement en disant qu'il est morel, en disant qu'il pardonne. Et donc, on arrive ici au cœur du sujet. Est-ce que oui ou non, Yosef a pardonné? Et Or HaChaim dit, la raison pour laquelle il ne leur a pas pardonné, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il a pardonné dans son cœur, mais il n'aura pas dit, je pardonne. Il dit parce que, avant que la Torah ne soit donnée, les Bnei Israël avaient un statut de Bnei Noir. Et lorsqu'un Ben Noir, un humain, avant que la Torah ne soit donnée, est victime d'un vol, ou d'un rap, ou d'un kidnapping, il n'est pas dans ses possibilités d'être mochel, de pardonner. Donc cette mechila, ce pardon, n'aurait aucune valeur. Donc Yosef préfère dire à ses frères, sachez qu'en vérité, tout ça a été conçu par Hachem. Hachem a organisé, il a utilisé cette volonté de faire le mal que vous aviez pour me faire du mal. Il nous a utilisé les yeux pour régler un certain nombre de comptes, mais il n'a pas dit à un seul moment qu'il était clairement mochel, qu'il pardonnait clairement. Et donc ça pose une question qui est une question fondamentale ici. D'accord ? Ici, le Or HaChaim HaKadosh nous dit que Yosef n'a pas clairement dit qu'il pardonnait. Mais alors qu'est-ce qu'il a dit, Yosef ? Alors pour ça, il faut parcourir le chemin. Quand il se révèle à ses frères, il leur fait ce qu'on appelle une tochacha. Il leur fait, on appelle en français une réprimande, mais la traduction est fausse. Il va démonter leur système. Vous dites que si vous ne ramenez pas Binyamin, que je veux garder là maintenant, alors vous allez, mon père va mourir. Mais moi, je suis Yosef. Je suis Yosef. Est-ce que mon père est encore vivant? Quand vous m'avez vendu, vous avez pensé que mon père était vivant. Et là, les frères n'ont pas pu répondre. Il a complètement démonté leur système. Mais les frères ont compris qu'ils avaient fauté, et Yosef le savait. Et donc, à partir de ce moment, les retrouvailles ont été possibles. Mais là, ici, on est dans une autre configuration. Yosef va ajouter un élément qui n'est pas un élément de Tochacha, qui est un élément de réflexion pour lui comme pour ses frères. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fin de cette histoire, à la fin de ce conflit, tout le monde va revenir à ce qui, en fait, devrait normalement être le point de départ de toute personne sage qui voudrait éviter les conflits. Yosef va les renvoyer et se renvoyer finalement lui-même. Il va renvoyer ses frères à eux-mêmes et se renvoyer à lui-même. Yosef va leur dire la chose suivante. Il a dit, c'est Hachem, ici, qui a conçu cette histoire. Vous, vous avez pensé les Ra'a. Vous avez pensé pour le mal. Mais en fait, moi aussi, j'ai fait le mal. J'ai dit du Lashon Hara. Ce Lashon Hara, cette médisance, elle a entraîné votre haine. En plus, j'ai eu la maladresse de vous raconter des rêves dans lesquels il semblait que je me prenais pour un roi. Et donc, vous, vous m'avez haï, vous m'avez détesté. Non seulement sur le Lashon Hara, la médisance que je rapportais à mon père à votre sujet, et sur les rêves que je vous ai racontés. Et après, vous m'avez détesté. En fait, Hachem, qui lui gouverne l'histoire, il a utilisé toute cette histoire pour m'envoyer moi en Égypte, me permettre moi, pendant 22 ans, plus les années où Jacob a vécu en Égypte, il faut rajouter encore 17 ans. Toutes ces années-là, elles m'ont servi à comprendre qu'en fait, Hachem, finalement, c'est lui qui organise l'histoire. Et on a le choix. Soit on fait des choix qui sont des choix positifs, des choix d'affection, d'entente, d'amour, des choix de shalom. On fait attention au shalom dans son couple, dans sa famille. On fait attention à préserver des espaces de discussion. On fait attention à juger favorablement. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on est associé avec Hachem et on fabrique une histoire qui est une histoire dans laquelle il est pleinement associé. Ou alors, non, on rentre en conflit, on oublie tout. On oublie de pardonner, on oublie de juger favorablement, on oublie d'essayer d'apaiser, on oublie d'essayer de renoncer parfois. Et donc, on rentre en conflit violemment. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, Hachem, il va nous utiliser, mais pour aboutir à quoi? Pour aboutir au résultat qui devait arriver, à savoir qu'on devait être en Égypte, qu'on devait passer par cet exil, et qu'on devait, ici, apprendre à se retrouver et à vivre ensemble. Donc c'est ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, mais plus que ça, il va leur dire, j'ai même pas intérêt à vous tuer, comment voulez-vous que je vous tue, que je vous fasse quoi que ce soit? Jusqu'à présent, on disait que j'étais un esclave. Quand vous êtes arrivé, on a compris que j'appartenais à une grande famille. Est-ce que c'est mon intérêt de vous tuer? Vous avez déjà vu un frère qui tue ses frères? Il leur dit. Autrement dit, Yosef va nous expliquer, va expliquer à ses frères, et va permettre aux frères de comprendre que ce conflit, c'est un conflit qui est venu parce qu'à un moment, on évacue cette notion d'entente, cette notion de shalom, et parce qu'à un moment donné, on oublie aussi que, en fait, notre rôle, c'est d'être associé du Créateur dans l'histoire. Et on est de toute façon des éléments de cette histoire. Mais c'est à nous de décider. Où est-ce que, où on veut, en quelque sorte, en faire partie malgré nous? Et donc, comme Yosef et ses frères, on est jetés sur les routes de l'exil. Et on sait très bien que tous les exils et toutes les souffrances du peuple juif proviennent de cette haine gratuite que nous devons réparer dans notre génération. Ou alors, donc on oublie ça et donc on est jeté sur l'exil. Ou alors au contraire, on s'en souvient et au contraire, on peut être associé à Hachem. Et là, je voudrais faire un petit point par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël. On a l'habitude de dire qu'un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Mais je vais vous dire une chose, en Israël aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Parce que les parents, une grande partie des parents des otages, les parents des soldats aujourd'hui s'unissent de manière extraordinaire et refusent aujourd'hui le discours de la haine, le discours de la condamnation, le discours du rejet. C'est une chose aujourd'hui qui est devenue littéralement et physiquement insupportable, d'abord pour ceux qui sont au cœur de la bataille militaire et au cœur de l'histoire des otages, c'est-à-dire les parents des otages et les parents des soldats, et finalement pour tout Israël. Il y a aujourd'hui en Israël quelque chose qui est en train de se passer. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a toujours les pompiers, il y a toujours les pyromanes, il y a toujours les gens qui vont allumer des feux. Ça, oui, on vous entendait parler en France parce que la presse française se fera un plaisir de rapporter ces gens-là. Mais ici en Israël, ce qu'on voit, ce sont des millions de gens qui en ont marre de la haine et qui veulent beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de fraternité, beaucoup de respect. Et ça, c'est la lumière qui aujourd'hui éclaire le peuple juif. C'est cette lumière qui éclaire le peuple juif. Je suis sûr que cette lumière, elle sera un élément de délivrance finale pour chacun d'entre nous. Voilà, Shavua Tov, en nous souhaitant d'avoir définitivement des bonnes nouvelles, le retour de tous les otages en bonne santé, et l'élimination totale, radicale du Hamas. Et évidemment, ce pour quoi on prie trois fois par jour, la délivrance finale, qu'on la mérite, elle a été décidée lors du 10 Tevet, c'est le 10 Tevet aujourd'hui, 10 Tevet qui est passé vendredi, qu'on décide si nous, on sera délivré. Espérons que des bonnes décisions et des bons décrets ont été pris dans le ciel pour le peuple juif.
Rav Mordechai Biton, merci et Shavua Tov.
À très bientôt.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir.
Shavua Tov.
Shavua Tov.
Rav Gay, alors, on est sur notre paracha qui est Vayechi. Et vous, ce que vous voulez nous montrer, nous enseigner, c'est que, selon nos maîtres, cette paracha est une paracha qui se concentre sur les midot. C'est un concentré d'enseignement sur les midot, donc sur la façon de se comporter, on va dire. Et notamment, on voit dans les brachot que donne Yaakov une compréhension profonde des traits de caractère de chacun, de comment le diriger ensuite, de quelles sont ses forces, quels sont ses potentiels. Donc évidemment, c'est très motivant comme paracha, et on vous écoute avec beaucoup d'intérêt, Rav Gay.
Effectivement, j'ai entendu le Rav Shlomo Volbe, donc l'auteur du Aleshour, c'était en 1983. Il nous avait donné un cours sur Vayechi, et il nous disait que, effectivement, le livre, enfin la paracha de Vayechi, en particulier les bénédictions que fait Yaakov à ses enfants, constituent en soi tout un livre, tout un enseignement très riche sur l'analyse des midot. Alors, j'explique ce que c'est les midot. Les midot, c'est le trait de caractère. En français, le mot mida se traduit aussi par mesure, parce qu'en fait, tout simplement, on a tous différents types de caractères. Ces caractères s'expriment de différentes façons. Si elles sont utilisées à bon escient, même ce qui peut paraître un défaut peut se faire être une qualité, comme par exemple le défaut de la paresse. C'est pas bien d'être paresseux, mais c'est très bien d'être paresseux lorsqu'on nous propose de faire des bêtises. Ah non, là, j'ai pas les nerfs, je vais rester à la maison au lieu de partir faire une bêtise. Ça, c'est une paresse bien utilisée. Évidemment, c'est pas la même chose si cette paresse, c'est lorsqu'une mitzvah se présente à nous et qu'on est paresseux. Alors, le Rav a fait une analyse très intéressante des bénédictions qui sont faites. Alors, prenons l'exemple de Réhouven. On va pas pouvoir analyser chaque bénédiction, mais prenons l'exemple de Réhouven. Donc Réhouven, je vous rappelle, c'est l'aîné, le premier-né. Donc normalement, le premier-né, il a plusieurs prérogatives dans notre tradition. Il reçoit la double part, il est souvent le leader de la famille, et dans le cas présent, il devait même être prêtre, Cohen. Donc il aurait dû cumuler la double part donc dans l'héritage, donc dans la parcelle qui devait lui revenir en Israël. Il devait avoir le rôle de prêtre, et il devait avoir le rôle également de leader, de chef, de roi. Et tout ça, Yaakov lui dit, « Pachaz Kamaim, tu as été impétueux comme de l'eau, impétueux. » Donc on imagine une rivière, une cascade, on voit cette eau impétueuse, une eau qui tombe très vite, un courant très fort. En fait, ça veut dire que tu n'as pas de sang-froid, tu n'as pas de retenue. Et c'est pour cela, al totar, c'est-à-dire tu n'auras plus ses prérogatives. Il le prive de tout. La double part, on sait que c'est Yosef qui va l'avoir, puisque c'est Menaché Ephraim, il est un des 12 frères, et pourtant, il y a une double part, puisqu'il y a deux fils, Menaché et Ephraim, qui chacun auront leur part. Donc c'est une double part. Ensuite, le leader, c'est Yehuda. Le prêtre, c'est la tribu de Lévi. Donc Réhouven perd toutes ses prérogatives. Et l'explication qu'il lui est donnée, c'est parce que tu as été impétueux. Alors, à quoi fait allusion Yaakov? Il fait allusion à une faute. Lorsque sa femme Rachel décède, elle disparaît de ce monde, Rachel, Yaakov s'installe son lit dans la tente de Bila, qui est la servante de Rachel. Et Réhouven, qui voit ça, il réagit tout de suite et il déplace le lit de son père de la tente de Bila vers la tente de sa mère Léa. Il dit, voilà, je comprends pas, ma mère, elle a toujours été la deuxième par rapport à Rachel, donc, mais ça c'est Rachel, mais elle va pas être non plus la deuxième par rapport à la servante de Rachel qui est Bila. Donc il réagit, mais sans en parler à son père, sans discuter, à chaud, tout de suite. Et Yaakov dit la chose suivante. Alors, c'est une faute que tu as commise, d'accord ? C'est une faute sur laquelle Reuven a fait teshuva pendant toute sa vie. Hein. Toute sa vie, il fait teshuva sur cette faute. Mais elle est révélatrice. Elle est révélatrice d'un trait de caractère qui est un manque de contrôle, de self-control, de maîtrise de soi. Tu as une idée en tête, t'as une pulsion, tout de suite tu réagis avec toute la force, la violence. Tu réfléchis pas assez, tu prends pas assez de temps, donc tu n'es pas un bon leader. Un leader qui réagit à chaud, ben c'est catastrophique. Il faut qu'il prenne le temps, du recul. Même être un grand prêtre, ça ne fera pas non plus ta place. Tu n'as pas ce rôle, tu n'auras pas ce rôle, et tu perds même le rôle de premier-né en ayant tu n'auras plus le droit de la double part. Donc en clair, c'est pas la faute, mais c'est ce que révèle la faute. La faute révèle un trait de caractère négatif, et ce trait de caractère mais c'est écrit dans les brachot, hein. Ce trait de caractère le prive de ses trois prérogatives, et en même temps on appelle ça une bracha, une bénédiction. Et le Rav nous disait, la bénédiction c'est pas d'être président de la République ou d'être chef d'entreprise, la bénédiction c'est d'être à sa place, c'est-à-dire là où véritablement on donne le meilleur de nous-mêmes et on est le plus performant. Parce que si on est président de la République et qu'on échoue lamentablement et que tout le monde nous critique et qu'on fait prendre des mauvaises décisions, qu'on est impétueux, qu'on n'a pas de sang-froid et qu'on réagit n'importe comment, eh bien c'est une catastrophe. Le rôle prestigieux de président de la République se transforme en calvaire et au contraire en quelque chose qui va nous amener à être méprisé, humilié, et c'est une catastrophe. La bracha, c'est d'être à sa place. La place qui nous convient. Donc Reuven doit remercier quelque part son père Yaakov de lui avoir ouvert les yeux sur ce trait de caractère qui est le manque de sang-froid et lui dire merci de m'avoir privé de ce qui aurait été un calvaire pour moi qui ne correspondait pas du tout à ma nature. Donc il fait teshuva sur la faute, mais il garde ce trait de caractère et ce sera très difficile pour lui de le changer. Et donc il faut qu'il soit à sa place, c'est-à-dire qu'il prenne la place parmi tous les autres shvatim, tous les autres frères, mais sans avoir de prérogatives particulières. Puis après, il s'adresse à Shimon et Lévi. Alors Shimon et Lévi, il en veut parce qu'ils ont tué la ville de Shrem et qu'ils ont voulu tuer Yosef. Et donc ils sont, eux, très violents, ils utilisent le glaive et il leur dit tout simplement ce type d'attitude, c'est pas celle d'Israël. Israël, c'est la prière, c'est pas la violence. Et donc ils les séparent, Shimon d'un côté, Lévi de l'autre. Lévi n'aura pas non plus de parcelle en Israël, il sera installé dans des villes parsemées dans tout le pays. Donc ils pourront plus retrouver cette proximité, Shimon et Lévi ne seront plus à côté l'un de l'autre, même s'ils ont une grande qualité. Shimon et Lévi, Achim, ce sont des frères, ils ont le sens aigu de l'importance de la fraternité. Pourquoi ils ont tué la ville de Shrem ? Parce que Shrem avait violé Dinah. Donc ils étaient extrêmement énervés et ils ne supportaient pas que l'on touche leur sœur. Donc ça venait d'un bon sentiment, celui d'être solidaire de leur sœur. Mais c'est parti dans quelque chose que Yaakov n'apprécie pas du tout, qui est la violence. Ils vont tuer toute la ville de Shrem. Et même chose avec Yosef, qu'il soupçonne de vouloir mettre la zizanie, de détruire la famille. Donc on est dans le même type de réaction liée à une grande sensibilité à l'importance de la famille. Mais en même temps, ça donne des fois des dérives, et c'est pour ça que Yaakov décide de les séparer. Shimon sera un enseignant et il va se promener dans tout le pays pour essayer d'enseigner la Torah. En tout cas, il ne sera pas le voisin de Lévi. Donc Lévi, de toute manière, il sera disséminé dans tout Israël. En clair, la proximité entre ces deux frères est rompue. Et donc le risque est... Donc on règle le problème, mais on a mis en valeur un défaut chez les deux, chez Shimon et chez Lévi. Et c'est intéressant de noter après que Yehuda, par contre, il est encensé. Yehuda est encensé par Yaakov des très très belles bénédictions. Ce sera le leader, ce sera le lion, c'est le chef, c'est le roi. Et en même temps, Yehuda, on sait qu'il a fait une faute. Il a fait une faute puisqu'il est avec Tamar. Sa belle-fille, pensant que c'était une prostituée, de là est née l'ancêtre du Mashiach, Peretz et Zahar. Donc, il a fait une faute, mais il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé en avouant sa faute et en expliquant devant tout le monde que c'était lui qui avait fait cette faute et qu'il l'a regretté. Et il a eu ce courage de mettre en second plan son intérêt personnel parce qu'il aurait pu étouffer l'affaire. Il dit non, non, c'est moi, j'avoue, je reconnais, et parce que la vérité, pour lui, ça compte. Et la vérité, ça compte beaucoup plus que sa réputation, et donc ça, c'est le vrai leader. Le vrai leader, c'est quelqu'un qui pense d'abord à l'intérêt, à la vérité, à l'intérêt du peuple, à l'intérêt, tout simplement, à défendre les vraies valeurs, et il met tout cela bien avant son intérêt personnel. Ça, c'est Yehuda, et c'est pour ça qu'il est choisi comme roi. Donc, en fait, il commence par un gros défaut, celui d'avoir fait une faute, mais cette faute, finalement, lui permet de révéler une qualité, et cette qualité-là, elle prime, et elle lui donne la possibilité d'être roi. Voilà l'analyse que faisait le Rav de ces différentes brachot, et j'en passe, et non, parce qu'après, il y a Yosef, il y a encore Issachar, Zevouloun, mais je ne sais pas si j'ai encore du temps à l'antenne, parce que ça demanderait encore beaucoup de temps pour développer chacun, mais tout ça pour vous expliquer quelque chose de très important. Important de déceler, non pas, de ne pas s'arrêter aux actes, mais plutôt de voir ce que l'acte révèle. Il y a des actes qui ne sont pas révélateurs. Ces actes, c'est vraiment des accidents liés à des circonstances très particulières. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Ce n'est pas quelque chose de grave. Je vais prendre un exemple très trivial, très simple. Vous voyez votre enfant qui est à table de Shabbat, ce soir, c'est la table de Shabbat, et puis dès le début du repas, la table, elle est nickel, propre, blanche, etc. Et puis, il est un peu, on va dire, un peu perturbé, il est un peu bon, il est un peu excité, et votre enfant verse un verre de vin bien rouge sur la table bien blanche.
Le truc t'énerve bien.
Voilà. Alors, voilà, se mettre en colère là-dessus, on comprend, c'est énervant, ça nous embête. Mais on est tous d'accord que c'est de l'enfantillage, ça va passer, c'est pas quelque chose qui va rester lorsqu'il sera plus adulte. Donc il faut savoir passer là-dessus, et on va savoir que c'est révélateur de rien du tout, c'est des enfants. L'enfant, c'est comme ça, il a du mal à se maîtriser, mais c'est pas grave. Par contre, il y a d'autres choses que font nos enfants, mais qui sont révélateurs de mauvaises méthodes, de mauvais traits de caractère, et de caractères qui sont vraiment... et qui risquent de rester en eux lorsqu'ils vont grandir. Et là, il faut réagir. Là, il faut réagir, et fermement, parce que là, c'est vraiment ce qu'on appelle un môme qui n'est pas ouvert. Un môme, c'est un défaut. Il y a des mômes qui passent, qui sont passagers, qui sont liés à la jeunesse, mais qu'il y a des défauts qui ne sont pas liés à ça, qui sont des problèmes plus profonds. Et ça, il faut que nous, les parents, on soit vigilants pour essayer de faire en sorte que nos enfants soient protégés. Et je voudrais dire à tous les parents qui réfléchissent à l'avenir de leurs enfants et à leur métier, souvent les parents, ils veulent que les enfants fassent la même chose qu'eux-mêmes, qu'ils prennent les affaires du père ou qu'ils continuent le cabinet du père, qu'ils soient médecins, soient avocats. Il faut vraiment être capable de voir l'enfant tel qu'il est, de l'analyser, d'analyser ses qualités, ses défauts, et de se demander vraiment si c'est une bracha, si c'est une bénédiction pour notre enfant d'être avocat, d'être médecin ou d'être, tout autre métier. Mais il ne faut pas se projeter, prendre ses options, ses rêves personnels, et de vouloir, qui a souvent été déçu, et de vouloir que nos enfants réalisent en fait ce que nous n'avons pas pu faire. Les enfants, c'est pas nos enfants, ils ne nous appartiennent pas. Ils ont des qualités, ils ont des défauts. Il faut savoir être objectif, ce qui est très difficile pour les parents, et de voir vraiment ce qui est bon pour eux, pour bien construire leur avenir. Comme la façon que Yaakov, lorsqu'il a pris ses enfants, il n'a pas été de main morte, il n'a pas passé la pommade à chacun en disant « t'es magnifique, t'es super ». Il a été un peu dur des fois. Et cette dureté, c'est la plus grande beracha, c'est d'ouvrir les yeux à nos enfants et de leur montrer quel est leur avenir et comment ils doivent devenir et qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur vie. Et pour ça, c'est pas facile. Souvent, les parents sont aveugles et ils ne veulent pas voir la vérité parce qu'ils n'ont pas, voilà, ça les dérange. Mais il faut avoir ce courage-là. Prenons exemple sur Yaakov et soyons et approfondissons, connaissons bien nos enfants, prenons bien à voir et analyser leurs réactions. Et rappelons-nous que un acte, ça peut être un accident, ou un acte, ça peut être révélateur.
Magnifique.
C'est ça qu'il faut bien comprendre.
Mais même un adulte, c'est beau. Même
effectivement. Vous avez par exemple des fois...
La colère, la colère. Il s'énerve. On sait, par exemple, on le sait au travail, on le sait dans la famille. Il y a des moments où tout le monde sait. On sait que ça n'a rien à voir. Ou des fois, il est comme ça. Il est prétentieux, par exemple. Il est arrogant. C'est pareil. Hein. Ouais, très, très beau.
Voilà, c'est ce que je voulais un peu rappeler.
Est-ce que je vous ai déjà parlé... 40 ans. Est-ce que je vous ai déjà parlé football, Rav Gay?
Je crois pas, non.
Non? Alors, est-ce que je peux?
Oui, allons-y.
Un jour, je demande à Luis Fernandez, qui était en Israël pour une mission de solidarité, Je lui demande, je lui dis, c'était il y a longtemps, hein. Je lui dis, bah, c'était pour des Maccabiades, donc c'était pas hier. Je lui dis, est-ce que Mbappé, ça va devenir, il avait 18 ans, Mbappé, est-ce que Mbappé, ça va devenir un grand joueur? Tout le monde le dit. Alors il me dit, ça dépend. Ça dépend beaucoup de son entraîneur. Et je lui dis, ah bon? Et à l'époque, il est à Monaco, hein, Mbappé, donc c'est impossible de savoir qui va être champion du monde. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend de son entraîneur? Il dit, parce que beaucoup d'entraîneurs, ils ont envie de refaire leur carrière à eux, au travers d'un joueur. Et si vous savez pas laisser le joueur s'exprimer, vous le cassez. S'il trouve un bon entraîneur qui va le laisser être Mbappé et révéler ses
modalités,
c'est beau, hein, c'est vraiment exactement ce que vous a dit Laura, hein. Je me suis dit, ah, ça a marché là.
Exactement, bravo.
Ça a marché, voilà. Même avec le foot.
Exactement. La bracha du père pour les enfants, c'est ça la vraie bracha. C'est pas de leur souhaiter d'être millionnaire, c'est leur souhaiter...
Non, ou de rejouer le match voilà. En leur demandant à eux de jouer notre match à nous.
Voilà, exactement. C'est vraiment d'être eux-mêmes et d'être épanouis et de trouver leur place.
Eh ben, Rav Guay, c'est magnifique. J'en profite aussi, puisque je sais pas comment dire, mais pour le plaisir de notre conversation que nous avons chaque semaine, qu'on a vu l'officier de l'unité. J'ai du mal à trouver les mots, qui est impliqué dans la mort des trois otages. Il est allé voir la maman. Iris, elle s'appelle la maman. On connaît son prénom parce qu'elle a envoyé un enregistrement à l'unité. Elle leur a dit, je vous en veux pas du tout. Ce qui s'est passé, ça fait partie. Elle a même dit, ça fait même partie de la victoire. Il n'y a pas de victoire sans passer par des épreuves comme celle-ci. Et donc je vous en veux absolument pas. Ce qui fait que l'officier, il est allé la voir chez elle. Et je peux vous dire qu'il faut un sacré courage. Et évidemment, donc, puisqu'elle avait dit, je vous en veux pas du tout, elle l'a accueilli, elle lui a redit des mots de renforcement, elle a dit, si vous voulez, j'irai voir vos soldats, et je leur dirai que personne ne leur en veut ici, chez nous, moi, mon mari, le frère de Alon, il s'appelle, c'est l'un des trois. Mais ça, c'est... Et vous disiez tout à l'heure, vous voyez que je vous écoute, que Yehuda, il a prouvé que c'était un grand leader quand il a été capable de dire, je me suis trompé, devant tout le monde. Là, l'officier qui allait voir la maman, je pense que c'est un vrai officier. Et parce que il n'a pas dû passer un bon moment. Hein.
Moi, je pense que l'armée d'Israël, franchement, on peut en être fier parce que malheureusement, ils essayent toujours de trouver des crimes de guerre. Ils en parlaient encore tout à l'heure, des crimes de guerre. Ils ont du mal. Ils ont du mal à trouver. Alors, dès qu'ils trouvent, ils essayent de se dire. Mais encore une fois, c'est basé sur des témoignages mensongers, basés sur ce qu'ils appellent le ministère de la santé de Gaza. Ouais. Comme si on peut parler de ministère, parce qu'on parle de terroriste. C'est tellement incroyable. Mais ils cherchent, et on sait très bien que l'armée d'Israël, ils font tout pour éviter les morts inutiles, et ils prennent des risques énormes, etc., etc. Donc on sait très bien que c'est une armée très, une éthique extraordinaire, et on en est fiers. Et on leur dit vraiment, effectivement, c'était terrible ce qui s'est passé la semaine dernière, mais encore une fois, personne n'est fautif, on est des êtres humains, et on ne sait pas toujours évaluer les choses, et je crois avoir entendu que des fois, le Hamas, ils jouent à ce jeu, ils se présentent comme étant, ils prennent le drapeau blanc, mais en fait, c'est un piège, donc vraiment, on n'a que, c'est des gens qui risquent leur vie, des jeunes, et chaque fois qu'on voit un soldat disparaître, ça nous brise le cœur. À tout le peuple juif, c'est comme nos enfants. Tous les soldats et les familles, c'est comme nos enfants et notre famille. Oui, et donc c'est ça qui... D'un côté, c'est terrible, d'un côté, c'est beau de voir le peuple juif tous unis et avec de tels midos, des gens qui parlent comme cette femme. Et c'est vraiment...
C'est magnifique, il faut l'entendre, le reportage. Moi, je l'ai entendu, le son. On a pu le passer à la radio. Faut voir, elle a dit, on ne vous en veut pas du tout. Elle a dit, vous sauvez des vies, elle. Ce que vous faites, c'est pas que vous avez tué quelqu'un et que maintenant vous devez vous sentir les jambes lourdes. C'est ce que vous faites qui sauve des vies. Et ben, on avait pris sur nous depuis les massacres du 7 octobre d'essayer de faire quelque chose à l'issue de cette émission, le vendredi soir d'allumer les bougies. Ben voilà, on rappelle donc suite à ce que vous aviez vous proposé les rabbanim. Voilà, ce soir donc c'est samedi soir, on peut faire la Havdalah, on peut ouvrir un livre, on peut faire un Tehillim, on peut donner un coup de fil à quelqu'un qui est là-bas, ou même à sa maman, si on n'a pas l'habitude de le faire. Il faut prendre quelque chose de nouveau. Et voilà. Et donc, voilà, notre conversation est l'occasion aussi de faire des bonnes choses. On peut faire quelque chose. Ouvrez un livre de Torah ou quelque chose sur nos maîtres, c'est toujours une bonne idée. Rav Gay, merci à vous et Shavua Tov.
Shavua Tov, merci beaucoup.
Bonsoir.
Bonsoir.